Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Un jour, nous rencontrons une personne du sexe opposé avec qui nous avons envie de passer tout notre temps. Ensuite, cette personne prenant une place croissante dans notre cœur, nous décidons d'en faire notre partenaire dans la vie, bien convaincu qu'elle le restera jusqu'au bout. Malheureusement, trop souvent après le mariage, un changement d'attitude s'opère. On se laisse aller, l'ardeur et l'empressement du début s'émoussent petit à petit, parce que l'habitude s'est installée dans le foyer. Si vous pensez que ce n'est pas votre cas, demandez-vous si votre comportement au sein de votre couple est identique à celui de l'époque de vos fiançailles, ainsi qu'au cours des premiers mois du mariage. Trop de familles ne sont guère heureuses. Les gens ne sont pas contents, ils sont vite énervés et ils se mordent le bout du nez à la moindre occasion. Comment éviter une telle situation? En essayant tout simplement d'en découvrir la cause, car ne l'oublions pas, le mariage est une institution divine. Voyons ce qui peut contribuer au manque d'harmonie dans un ménage. Avant tout, l'influence sournoise que le monde exerce sur chaque être humain provoque en partie l'érosion des ménages. Le mariage est une institution sanctifiée par Dieu, et trop souvent, le couple agit comme si ce n'était pas le cas, parce que tout autour de lui, les journaux, la télévision, la radio, tentent à la galvauder. J'aimerais donc voir aujourd'hui la cause du manque d'harmonie dans les ménages, car il y va du bonheur des conjoints et des enfants. Les nouvelles générations se marient de plus en plus rapidement, sans trop de réflexion, et les divorces sont de plus en plus nombreux. Ou alors on se met en ménage, sans se rendre compte qu'il s'agit de l'impudicité dont il est question dans la parole de Dieu, et qui est une transgression du 7e commandement. Pour certains, le mariage est l'occasion de se libérer du joug des parents, l'occasion d'enfin faire ce que l'on a envie de faire, c'est-à-dire mener une vie sans loi, sans contrainte. Quelle erreur! Penser cela, c'est perdre de vue la sanctification du mariage, c'est perdre de vue le Dieu vivant, ainsi que ses lois qui régissent le mariage. Normalement, vouloir se marier, c'est vouloir vivre heureux, vivre joyeux ensemble. On est alors décidé à se respecter mutuellement, à porter le fardeau de l'autre et à rester unis le plus longtemps possible. Mais notre société égare les gens. L'apôtre Paul a écrit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Les gens s'assimilent à leur environnement et ils se laissent influencer par tout ce qui les entoure. C'est ainsi qu'une érosion s'empare de nombreux mariages. Au lieu de former un couple soudé, de former une seule chair, au lieu de vivre ensemble et de tout partager, les jeunes veulent vivre d'une manière indépendante, ils veulent évoluer séparément. Lorsqu'il rentre de son travail, l'époux est fatigué. Mais n'en est-il pas de même pour l'épouse qui, elle aussi, a accompli sa tâche? Combien de messieurs aident leur épouse en rentrant à la maison, afin qu'elle puisse, elle aussi, disposer de la soirée, se reposer et former un couple uni, savourant ensemble quelques heures d'intimité? C'est ainsi que l'on peut resserrer les liens du couple et installer un climat de paix, de joie et de compréhension. C'est ainsi que l'on peut empêcher l'érosion de saper les fondations d'un foyer que l'on a voulu heureux au départ et qui doit le rester jusqu'à ce que la mort sépare les conjoints. Le psalmiste a écrit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Est-ce là l'image de votre foyer et est-ce là l'image que vous donnez à vos enfants? Dieu est-il le pivot de votre mariage? Si vous êtes chrétien, vous pouvez aimer car l'amour de Dieu permet d'aimer ses ennemis, ses amis et à combien plus forte raison son conjoint et ses enfants. Mais les gens se querellent au lieu de rechercher la paix, et ils finissent par en avoir par-dessus la tête l'un de l'autre. au point d'envisager la séparation pour retrouver la paix. Si chacun voulait demander à Dieu de l'aider à aimer tous les siens, à éliminer tout égoïsme pour penser avant tout aux membres de la famille, les choses changeraient. Si les couples plaçaient Dieu au centre de la famille, les choses changeraient. Pensez-vous qu'il soit possible de prier avec sincérité, tout en cherchant noise à son conjoint et en se chamaillant? La difficulté de bien des couples débute dès la fin de la lune de miel. La lune de miel laisse la place à la routine qui s'implante dans la vie commune. Elle mène alors sa lente guerre d'usure, sa guerre des nerfs. Le plaisir de se retrouver, de s'aimer, sans se priver l'un de l'autre, la résolution du début de s'aimer toujours pour le meilleur comme pour le pire, tout cela s'érode, s'efface. Le bonheur est compromis. Au lieu de remercier son conjoint pour les petits services rendus, on commence à chercher les défauts de l'autre. On tombe dans le piège de la paille et de la poutre. Ensuite, on se néglige, on manque d'égard pour le conjoint et le respect disparaît de plus en plus. Le premier amour s'est volatilisé car on n'a pas veillé à le protéger. Lorsqu'un conflit surgit, au lieu de s'expliquer rapidement, on laisse la pression s'accumuler et ensuite c'est l'explosion. Le conjoint ferait mieux de garder son calme, car la colère engendre la colère. Il suffit bien souvent d'une parole douce pour calmer les esprits et sauvegarder l'harmonie. Le roi Salomon a écrit « Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la fureur. » C'est souvent par manque de communication que les difficultés s'installent. Le manque de communication provoque l'incompréhension, la déception. L'incompréhension engendre le ressentiment. Le ressentiment se durcit en hostilité et finalement, l'hostilité s'installe dans le ménage. Des petits drames aux grandes tragédies, il n'y a souvent que l'épaisseur d'un cheveu. Tout, ou presque tout, peut alors devenir sujet à dispute, à colère et à explosion. Une parole sage peut avoir une grande efficace, comme l'enseigne le livre des Proverbes, « Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. » Si un des conjoints refuse de prendre ses responsabilités, alors le mariage peut être voué à l'échec. Adam n'a pas guidé sa femme à respecter les ordres divins. Voyons la façon dont Dieu reprend Adam. « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Dieu reprocha à Adam de ne pas avoir aidé son épouse à tenir compte des ordres donnés. Au lieu de remettre sa femme dans le droit chemin, Adam suivit la même voie qu'elle. À partir de ce moment, le sol fut maudit et Adam en supporta les conséquences. Dieu aurait pu mettre Adam hors de cause et rejeter la responsabilité sur Ève, mais il n'en fit rien. Il rendit Adam responsable de ce qui s'était passé. La responsabilité du foyer incombe avant tout à l'homme. C'est lui le chef de la famille, c'est ce que l'apôtre Paul confirme. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Plus tard, Paul écrivit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Vous noterez que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. La différence entre l'Église bâtie par le Christ et les autres églises réside dans l'obéissance de tout ce qui est ordonné dans les Écritures, sans rien modifier aux instructions divines. Vous venez d'entendre que l'époux est le chef de la femme, comme Christ est le chef de son Église. Il confie donc les rênes du foyer à l'époux, c'est lui qui en est responsable. Dans son épître aux Colossiens, Paul écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » Mais que doit faire l'épouse dont le mari ne se soucie aucunement des instructions divines? Dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre confirme que le chrétien doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il doit donc se soumettre à la volonté de Dieu en priorité, ensuite se soumettre à toutes les décisions que prendrait l'époux si ces décisions n'obligent pas l'épouse à désobéir aux lois divines. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul a ajouté un petit détail qui cependant est une grande importance. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comment Christ a-t-il aimé l'Église? L'apôtre Jean répond, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Nous pouvons constater que la responsabilité d'aimer appartient en premier lieu à l'époux. C'est ce que Dieu enseigne. L'homme doit donc aimer son épouse comme le Christ a aimé l'Église. Il doit être le premier à faire preuve d'amour. Égoïstement, le mari pourrait penser que puisqu'il est le chef de la famille, il appartient à l'épouse de faire le premier pas. Mais la parole de Dieu enseigne le contraire. Certains hommes profitent de leur poste d'autorité au sein de la famille pour agir comme des dictateurs, des despotes, des petits tyrans. Mais ils sont à côté de la plaque. Ce poste d'autorité oblige l'époux à donner amour et affection à l'épouse ainsi qu'aux enfants. Il doit subvenir à leurs besoins, à leurs intérêts, être attentif à leur bien-être, à leur confort, à leur santé physique et spirituelle. En tant que chef de famille, l'époux, le père, doit être le premier à aimer. Marie, aimez vos femmes les premiers comme Christ nous a aimés le premier. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Lorsque l'époux mettra cet enseignement en pratique, il constatera très probablement que son épouse se coupera en quatre pour lui, parce qu'elle répondra à sa générosité, à son appréciation, à son amour. L'amour appelle l'amour, tout comme l'indifférence appelle l'indifférence. Le mariage est une construction entreprise à deux, et comme toute construction, il a besoin d'être des soins afin qu'aucune fissure ne survienne. Pour une bonne entente, il faut une attention vive et éviter d'entamer une discussion à un moment et à un endroit peu propice. Sinon, la discussion risque de tourner à l'aigre doux. N'établissez surtout pas une comptabilité rancunière des concessions que vous faites. Il peut arriver que les enfants troublent l'atmosphère familiale, mais l'épouse ne doit pas prendre ouvertement la défense des enfants en les approuvant, s'opposant ainsi aux décisions du père devant eux. La mise au point doit être faite en privé, hors de la présence des enfants, quel que soit leur âge. Le cinquième commandement qui déclare « Honore ton père et ta mère » garde toute sa valeur. Il faut imposer le respect des enfants vis-à-vis des parents. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour plaisanter, mais il y a un temps où la plaisanterie doit s'arrêter. Il ne faut pas non plus que l'époux prenne toutes les décisions pour son épouse. Elle doit, elle aussi, prendre ses responsabilités. Mais il va de soi que certaines décisions devraient être prises en commun. Pour conclure, je voudrais ajouter qu'il serait bon de méditer les vœux que le couple a prononcés le jour du mariage. N'oubliez jamais que les époux ont besoin l'un de l'autre. Dans le mariage, plus que n'importe où, l'union fait la force. De l'union véritable et profonde découlera la joie et la paix. Cette joie et cette paix transformera la vie du couple et soudera les liens entre parents et enfants.